Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Immo et Axéo, avec Johanna Zilberstein.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro du bâtiment optimisé, l'émission coproduite par Radio Immo et Axéo. Objectif, vous donner les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments, énergie, amiante, ascenseur, accessibilité, bref, nous allons vous aider à optimiser vos bâtiments, à mieux les gérer et à les valoriser en gagnant du temps et de l'argent. Et pour poursuivre cette noble mission, je suis chaque mois en compagnie d'un expert Axéo. Aujourd'hui, c'est Alexis Dorlic, bonjour, qui m'accompagne.
Bonjour.
Vous êtes responsable technique régionale amiante chez Axéo et nous sommes accompagnés de François Arvis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur technique chez Altarea Cogedim et pour cette deuxième émission, nous allons évoquer les travaux amiantes, comment améliorer la sécurité tout en réduisant les coûts de traitement. On en reparle juste après ça.
Le bâtiment optimisé, le sujet du mois.
Alors avant d'attaquer, quelques précisions sur l'amiante. Sachez que c'est une roche naturelle utilisée depuis la nuit des temps qui a été intégrée dès les années 30 dans la composition de nombreux matériaux de construction. Mais sa propriété la plus terrible est que c'est une roche fibreuse, qu'elle est imputrescible et que l'inhalation de ses fibres est hautement cancérigène et mortelle. Son utilisation a donc été totalement interdite en France en 1997. Mais aujourd'hui, elle nous pose encore de nombreux problèmes car elle est toujours présente dans de très nombreux bâtiments construits avant cette date et dans de très nombreux produits et matériaux. Elle cause environ entre 2000 et 5000 morts par an, ce qui fait d'elle le premier tueur du bâtiment. Rien que ça, la réglementation impose donc le repérage obligatoire des matériaux amiantés dans tous les bâtiments construits avant 1997 et avant toute intervention de travaux. C'est le fameux dossier technique amiante et repérage amiante avant les travaux. Nous en avions d'ailleurs déjà parlé dans cette émission. Traiter l'amiante lors de travaux dans un bâtiment peut donc très vite devenir un véritable casse-tête pour les propriétaires et les gestionnaires, ou en tout cas une source de dépenses supplémentaires considérables. Voilà un peu le contexte de l'amiante et voilà pourquoi on en parle aujourd'hui avec notre expert et notre invité.
Le bâtiment optimisé, l'œil de l'expert.
Et on va commencer par donner la parole à notre expert du mois, Alexis Dorlic. Pourquoi le traitement de l'amiante est aujourd'hui si compliqué ?
Alors effectivement, Johanna, appréhender la thématique amiante dans un bâtiment, ce n'est pas une tâche aisée. Et ce, pour plusieurs raisons. Parce qu'il peut y en avoir partout et sous plusieurs formes de matériaux. On peut en avoir dans des faux plafonds, dans des ports d'ascenseur, dans des dalles de sol ou même des flocages et des calorifugages. Parce que souvent, les produits et les matériaux qui vont constituer l'amiante vont être différents de par leur nature, leur quantité, leur concentration et de leur façon d'être traités, notamment dans le cadre de travaux. Et parce que la réglementation aussi encadre le sujet sans forcément imposer des méthodologies de travail les plus optimales et les plus simples. Aussi parce que les informations détenues sont souvent parcellaires et insuffisantes, notamment dans le cadre de diagnostics. Et c'est parce qu'une fois que le repérage réalisé et les résultats seront obtenus, que c'est au propriétaire de décider des actions à mettre en œuvre. C'est à lui de décider comment on va traiter l'amiante, soit par du retrait, soit par de l'encapsulage ou du recouvrement, par exemple, à sous-section 4. Mais le gestionnaire ne peut pas forcément être un spécialiste dans le bâtiment et notamment dans le cadre de ce sujet amiante. C'est pourquoi il s'entoure la plupart du temps de bureaux de contrôle, notamment, qui vont réaliser des diagnostics, des DTA, des dossiers techniques amiantes et des rapports avant travaux. Et d'entreprises du coup qui vont réaliser les travaux, les fameux désamianteurs. La plupart du temps, ce sont eux qui vont fournir l'information source pour la prise de décision pour les futurs travaux à venir. Pour être capable d'intervenir dans la majorité des situations, les entreprises de travaux désamianteurs vont devoir investir fortement pour réaliser ces travaux. Elles vont devoir se faire certifier, premièrement. Elles vont devoir notamment s'encadrer de personnes compétentes et acheter forcément tout le matériel qui va incomber aux travaux de retrait de l'amiante, que ce soit des sas, des extracteurs, etc. Une fois acheté, ce matériel doit être forcément utilisé et rentabilisé sur un chantier, ce qui ne pousse pas forcément les entreprises de travaux à rechercher des solutions optimales et forcément les moins coûteuses pour la réalisation. En résumé, voilà pourquoi un peu l'amiante est difficile aujourd'hui à gérer. Le sujet est complexe, hein, il est grave. C'est un sujet de santé publique, on le voit aujourd'hui dans les médias notamment. Et il faut savoir que de nombreuses solutions existent aujourd'hui pour traiter l'amiante, mais elles ne sont pas forcément toujours connues, disponibles ou intéressantes pour les acteurs. Et faute de bonnes connaissances, on préfère souvent aujourd'hui ouvrir le parapluie au maximum. C'est-à-dire on va prélever partout, on va garantir le plus haut niveau de sécurité, on va traiter le problème en maximisant les niveaux d'empoussièrement par la mise en place de protections collectives non indispensables. Je parlerai de niveau 3 d'empoussièrement par exemple. Et forcément, les méthodologies forcément qui vont être les plus chères, ou même dans certains cas, on va potentiellement ne pas effectuer de travaux du tout. Voilà.
Donc beaucoup de solutions, vous venez de nous le dire. Est-ce que vous pourriez nous les détailler et revenir aussi sur ce niveau 3 dont vous venez de parler ?
Bien sûr. Alors pour faire simple, sur un chantier, aujourd'hui, concerné par l'amiante, il y a plusieurs niveaux de protection individuelle et collective qu'on va mettre en place. Du coup, suivant les matériaux montés découverts, qui n'ont pas forcément les mêmes propriétés physico-chimiques à la base, la méthodologie d'intervention choisie et le nombre de fibres possiblement émise dans l'air. Voilà. C'est vraiment le nerf de la guerre. Pour avoir une échelle simple de comparaison, on peut retenir qu'en moyenne, d'un niveau à l'autre, donc du niveau 1 au niveau 3 par exemple, on va doubler voire tripler les coûts liés au traitement des matériaux amiantés. Et pour pouvoir intervenir dans un niveau et pas dans l'autre, il faut que le processus d'intervention retenu sur les matériaux identifiés, il a été validé par un chantier test. Alors, qu'est-ce qu'un chantier test ? C'est un chantier où on aura pris le temps de démontrer les modalités d'intervention qui vont émettre un certain nombre de fibres dans l'air et peut-être justement réaliser en tel ou tel niveau qu'on a précédemment décrit. Encore une fois, d'une méthode à l'autre, les coûts et les délais peuvent varier de 0 à 10. Et les conséquences sur l'environnement et les usagers aussi. Hein. Voilà, on peut parler de planning, on peut parler de restrictions à mettre en œuvre, notamment sur un sujet. Voilà.
Alors évidemment, quand il y a danger, on peut être tenté de se surprotéger, mais le maximum n'est pas forcément le plus optimisé. Quelles sont les solutions qui permettent de vraiment optimiser en matière de gestion de l'amiante ?
Alors oui, Johanna. Le tableau que je dresse, forcément, il peut paraître un peu sombre et alarmiste, hein. Mais ce n'est pas du tout une fatalité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe de nombreuses solutions à mettre en œuvre pour optimiser la gestion de l'amiante et trouver pour chaque situation la meilleure solution de traitement, aujourd'hui qui ne sera pas forcément la plus chère sur un chantier. Le principe à respecter impérativement, c'est la précision. Dans la précision au niveau des diagnostics, premièrement, pour le diagnostiqueur qui va réaliser ses prélèvements sur le sujet, au niveau des analyses en laboratoire, hein, donc les laboratoires vont avoir vraiment une part de responsabilité sur ce sujet-là, et aussi la méthodologie d'intervention retenue par les entreprises de désamiantage. Si on prend l'exemple du repérage, qu'il soit obligatoire ou non, lorsqu'on part d'amiante, tout commence par un repérage. Diagnostic, donc on va venir faire des prélèvements dans la zone concernée par les travaux. Ça paraît simple et pourtant, aujourd'hui, la précision de ce repérage est fondamentale. Il faut savoir que ça va permettre d'identifier précisément quel matériau est amianté. Donc, suivant le matériau amianté, les solutions retenues ne seront pas forcément les mêmes, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure. Je vous prends l'exemple d'un calorifugage, qui est un exemple relativement courant. Dans un calorifugage, il y en a plusieurs couches. On peut avoir une enveloppe de calorifuge. On va avoir sous l'enveloppe de calorifuge un isolant, et sous cet isolant, on va pouvoir avoir une peinture ou un enduit bitumineux qui va venir faire adhérer cet isolant sur le conduit. La plupart du temps, dans le cadre d'un rapport avant travaux, on choisit le moins cher. Donc le diagnostiqueur va venir faire le prélèvement, il va prélever l'ensemble du matériau sans faire du séparatif de couches, c'est-à-dire qu'il va prélever la couche entière. Il va envoyer ça en laboratoire, et aujourd'hui, en termes d'analyse, on va juste avoir un résultat binaire finalement qui va nous dire soit on a de l'amiante, soit on n'en a pas. Et s'il y a de l'amiante, on considère alors qu'elle est partout, forcément, sur ce résultat-là. Et c'est pourquoi on va partir sur un désamiantage avec un fort niveau d'empoussièrement, donc ce fameux niveau 3, avec une fermeture de la zone et forcément des coûts très, très élevés. Ce qu'il faut absolument demander au diagnostiqueur, c'est de faire des prélèvements précis, donc du couche par couche, ce qui va permettre d'identifier précisément quel matériau est amianté. Soit c'est l'isolant, soit c'est l'enveloppe, etc. Dans notre cas, le plus souvent, voilà, ce sera l'enveloppe. Et aujourd'hui, chez Axéo, notre département recherche et développement développe des chantiers tests innovants. Et je sais que cette enveloppe pourra être traitée en niveau 1 d'empoussièrement, donc le niveau le plus bas, en milieu occupés parfois, hein, sans déranger la vie des occupants, dans des délais réduits et surtout en toute sécurité vis-à-vis de la réglementation. Là, on parle de coûts divisés par de coûts de travaux divisés par 4 ou par 5. Notamment, je ne vous citerai pas un exemple réel l'année dernière sur un hôpital où on était sur un budget de 3 millions d'euros de désamiantage, où on est passé sous le million de par ces techniques-là. Voilà.
Ça fait des sacrées économies. Et on va terminer sur une note positive, et c'est plutôt bien. Quand on vous écoute, on se dit qu'il y a encore une belle marge de progression hein, dans tout ce qui est gestion de l'amiante des bâtiments.
Oui, alors il faut savoir que certains acteurs aussi travaillent aujourd'hui très bien hein, déjà, que ce soit des bureaux de contrôle, des bureaux d'études ou même des amianteurs. Hein. Ce qu'il faut être très très vigilant aujourd'hui, demander dès le début des prestations les plus qualitatives possibles pour garantir des travaux optimisés, notamment tant sur le plan de la sécurité que des délais ou des coûts engendrés. C'est un petit investissement qui peut avoir de très très grandes conséquences. Voilà.
Merci Alexis Dorlig pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes responsable technique régionale pour Amiante pour Axéo. Vous restez bien avec nous. On va maintenant donner la parole à notre gestionnaire du mois.
Le bâtiment optimisé. Parole de gestionnaire.
Et notre gestionnaire du mois, eh bien, c'est François Arvis, directeur technique chez Altarea Cogedim. On va quand même rappeler que Altarea Cogedim gère un patrimoine de près de 3 milliards d'euros en France, et notamment des grands centres commerciaux comme Bercy Village à Paris, Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var. C'est un véritable opérateur de la ville en mixant produits de logement, bureaux, commerces, équipements publics, offrant un cadre de vie qualitatif aux utilisateurs tout en étant respectueux de l'environnement. Quelles sont concrètement les problématiques que vous rencontrez le plus souvent ?
Bien souvent, comme disait Alexis tout à l'heure, c'est en fait le manque de documents, c'est-à-dire que, ou alors si on a des documents, souvent les rapports sont erronés ou incomplets. Nous voulons, nous, un risque zéro sur la maîtrise des dépenses et des aléas. Donc nous devons relancer des investigations complémentaires et exhaustives avec une définition d'un cahier des charges vu avec la maîtrise d'œuvre amiante. Comme le soulignait Alexis, l'amiante peut se trouver sous différentes formes. Bon nombre de produits utilisés dans la construction depuis jusqu'en 1987 a introduit dans leur composition de l'amiante qu'il faut maintenant supprimer. Quand Alexis parle tout à l'heure d'encapsulage ou de ne pas forcément faire complètement un désamiantage, je dirais que le groupe a une vision totalement différente et notre parti pris politique, c'est surtout en fait d'éliminer totalement l'amiante qui peut se trouver sur un bâtiment dans le cas d'une réhabilitation. Dans le cas d'une déconstruction, on le fait systématiquement, mais dans le cas d'une réhabilitation, on fait aussi tout ce qui est désamiantage complet du bâtiment. La réglementation concernant la découverte et le traitement des produits amiantés évolue souvent pour prendre en compte mais forcément la sécurité des désamianteurs, mais aussi des utilisateurs et des occupants des lieux. Pour le grand public, il faut reconnaître que le mot amiante fait peur.
Et justement, quels sont pour vous les points clés pour réussir ces travaux liés à l'amiante ? Et comment vous, chez Altarea Cogedim, vous faites pour optimiser cette gestion ?
Alors, nous, notre réussite, je dirais, à se résumer en un mot, c'est la satisfaction du client et de l'utilisateur en ayant pris un maximum de précautions. Donc, si le risque zéro n'existe pas, nous voulons tendre vers, et pour cela, adapter autant que nécessaire les prélèvements afin de satisfaire une garantie de résultat. Nous travaillons, nous, en garantie de résultat et pas forcément en garantie de moyens. Voilà, puisque ce que disait Alexis tout à l'heure, c'est que les process peuvent être revus, peuvent être optimisés, peuvent être améliorés, peuvent être amendés. Nous, ce que nous voulons, en fait, c'est que l'amiante soit totalement éliminée de nos bâtiments. Donc, dans notre profession, je dirais que nous devons traiter le sujet amiante avec éthique et respect des lois. Ces travaux sont encadrés, puisqu'il existe une législation très stricte à ce sujet. Et nous nous engageons forcément à les respecter, nous ne dérangeons pas à la règle. Et quand une option se présente, nous optons pour une solution optimale et la plus sécurisante. Donc forcément, c'est travailler avec des entreprises expérimentées, employant un personnel qualifié, respectueux des méthodologies, et ainsi éviter la mise en danger des gens et mettant en danger aussi leur santé.
Et justement, pour atteindre tous les objectifs que vous vous fixez, comment travaillez-vous et puis avec qui?
Alors, sur les investigations, dorénavant, nous travaillons, nous associons à la fois au diagnostiqueur, nous associons à un AMO des amiantages. C'est-à-dire qu'en fait, on a un double regard sur les investigations que nous pouvons lancer et ce qui fiabilise un petit peu le travail et puis les résultats. Voilà. Ensuite, le choix forcément du laboratoire est important et le cahier des charges qui est défini aussi par l'AMO concernant le type de prélèvement et la nature des prélèvements qu'il doit faire, ce qui fiabilise un petit peu les résultats et les travaux à faire dans le cadre du désamiantage de bâtiments.
Merci beaucoup François Harvis d'être venu témoigner dans le bâtiment optimisé. On va maintenant prendre le temps, mais pas trop, de répondre aux questions que vous vous posez.
Le bâtiment optimisé, Axéo vous répond.
Allez, on a encore quelques petites minutes pour répondre aux questions avec vous, Alexis Dorlig. Première question, nous envisageons une réhabilitation globale sur un bâtiment de 1982 dans le cadre d'une rénovation énergétique. Devons-nous faire, je vais y arriver, des RAAT partout? On va rappeler d'abord ce que c'est.
Alors, le RAT, c'est un rapport avant travaux qui va être obligatoire dès qu'une intervention va être susceptible de libérer des fibres d'amiante dans l'air. Pour exagérer, en gros, je vous la fais simple, on fait un trou dans un mur, il va falloir automatiquement faire un RAT. Voilà. Après, il y a des méthodes de travail qui permettent de limiter aujourd'hui le nombre de prélèvements s'ils ne sont pas utiles. Si je vous prends l'exemple des ZPSO, qu'est-ce qu'une ZPSO? C'est une zone présentant des similitudes d'ouvrage. Elle permet à l'opérateur de diagnostic d'ajuster le nombre de prélèvements pour analyse en les limitant à une zone, notamment en tenant compte du monde constructif de l'immeuble et en réalisant des sondages destructifs par la suite. Pour exemple, il va pouvoir indiquer que pour une zone, tel ou tel matériau est toujours le même, il est amianté. Il ne va pas réaliser 20, 50 ou 100 prélèvements pour arriver à cette conclusion-là. Il faut maîtriser cette méthode de travail, et l'appliquer dans ses process. Et c'est une très bonne question. Vous devez demander impérativement à votre diagnostiqueur sa politique de ZPSO. Des étendues sur les matériaux peuvent être nulles ou aller de la pièce à l'étage ou même encore jusqu'à l'échelle du bâtiment tout entier.
Une autre question, nous souhaitons consulter un prestataire pour nous accompagner dans notre gestion des problématiques amiantes. Que demander? Comment assurer la qualité des prestations et sur quoi être vigilant?
Alors, la première des choses, c'est que ce prestataire soit 100% indépendant. C'est qu'il ne soit ni intéressé par l'analyse, ni par le repérage, ni par la partie travaux, bien entendu. Que son seul intérêt soit le vôtre et de vous trouver les meilleures solutions, justement, pour la gestion de ce risque amiante. Deuxièmement, c'est qu'il vous fasse preuve de sa capacité à avoir déjà mis en œuvre des chantiers tests innovants et peu émissifs notamment. Et enfin, c'est qu'il valorise la précision et la rigueur que l'on a vu ensemble au début de notre échange, et dans les repérages notamment, il nous assure la sécurité technique et financière de l'ensemble de votre chantier. Voilà.
Merci beaucoup Alexis pour ces derniers éclairages. Alexis Dorlig, je rappelle que vous êtes responsable technique régionale amiante pour Axéo. Merci également à notre invité François Harvis, directeur technique chez Altarea Cogedim. Voilà. Merci. Pour ce deuxième numéro du bâtiment optimisé que vous pouvez retrouver dès à présent avec les émissions précédentes en podcast sur notre site radio.imo. Et vous pouvez également poser vos questions à nos experts. Très bonne journée et à bientôt.
Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo, à retrouver en podcast sur vos plateformes d'écoute habituelles.